Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Aujourd'hui, on vous emmène au bord de la mer. Nous parlerons aussi du bronzage, nous irons dans la campagne suisse et il sera question du racisme dans le monde du cinéma. Le Suisse Thomas Sandeau publie un roman étonnant autour de personnages handicapés, une réflexion drôle et tendre sur la différence, la liberté et le rejet de l'autre. Nous irons au soleil donc dans quelques instants avec un essai inattendu. L'historien Pascal Horry analyse l'invention du bronzage, un récit intense qui raconte l'histoire de nos peaux bronzées à quelques jours de l'été. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La mode du bronzage a eu des hauts et des bas. Pourquoi a-t-on stigmatiser les teints hâlés au début du XXe siècle et même un peu avant.
Même un peu avant, parce que ça faisait 20 siècles que ça durait, c'est-à-dire que la distinction se faisait à cette époque-là par rapport aux paysans, pas par rapport à l'ouvrier ou à l'employé.
D'accord, donc c'était une histoire sociale.
Tout à fait.
Condition sociale, si on était exposé au soleil, c'est qu'on était dans une classe inférieure. C'est absolument terrible. Vous racontez tout ça, on va analyser ensemble tout à l'heure le bronzage. Puisque l'on parle de bronzage, nous irons au bord de la mer avec Yann Kefelec, qui publie un dictionnaire amoureux de la mer, cap sur Saint-Malo tout à l'heure, pour la première partie d'un grand reportage sur les remparts de la ville. Et je vous ferai d'ailleurs une annonce à cette occasion, surprise. Et puis nous serons avec deux comédiennes militantes, Firmin Richard et Nadège Bosson-Diagne dénoncent le racisme et les stéréotypes au cinéma.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires nous accompagnent tout au long de cette émission. Pour la France, on rejoint cette semaine la Martinique avec le retour de notre libraire de Fort-de-France. Bonjour Anne-Rosine Vosa.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Le Papillon Bleu. Tout va bien en Martinique pour vous ?
Tout va très bien, Martinique.
Bon, très bien. Voilà. À 3625 kilomètres de là, il y a Jérémy Laniel depuis Montréal. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes presque deux fois plus proche de la Martinique que la métropole française, figurez-vous.
Absolument, et j'adore le temps chaud, donc c'est parfait.
Il faut y aller, il faut aller en Martinique. Vous représentez le Canada, libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Et puis, en Martinique, on peut aussi y aller à Dos de Licorne. Bonjour Déborah Damblon.
Mais bien sûr Emmanuel, j'y vais tout de suite, tiens, je vous laisse.
Car vous êtes libraire dans la librairie La Licorne, qui comme chacun sait est un animal qui existe bien sûr. Et c'est à Bruxelles, la pétillante Laura Sanchez de Genève est de retour aussi. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Boulevard et vous représentez donc cette magnifique Suisse que nous aimons tant. Bonjour Firmin Richard.
Bonjour, à tous les auditeurs.
C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir dans la librairie francophone. Vous êtes une grande actrice française, originaire de la Guadeloupe, à 180 km de la Martinique. J'ai fait les comptes aujourd'hui. Hein. Nous parlerons de ce livre qui a fait sensation à Cannes la semaine dernière, « Noir n'est pas mon métier », un manifeste pour l'égalité dans le cinéma et les médias. Vous êtes avec Nadège Bosson-Diagne qui est avec nous. Mais on commence cette émission, comme chaque semaine, par une anecdote, une histoire personnelle. Que voulez-vous transmettre, Firmin ?
Ben écoutez, je vais vous raconter un peu ma première... après avoir fait Romuald et Juliette, le premier film que j'ai eu à faire après, c'était un film avec Dino Risi qui s'appelle Tall Gold Disturbo. Je ne vous dérangerai plus. C'est le dernier film de Dino Risi avec Victorio Gassman. J'étais très surprise le matin, on m'appelle l'assistante d'un producteur. Et voilà que ce monsieur me dit, me parle du film que je devrais faire avec Dino Risi. Bon, le gars me dit, mais vous savez, vous allez devoir parler petit nègre. Et j'entends ça, je dis, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou je m'en vais? Il me parle du scénario et je me dis, non, j'irai jusqu'au bout, je vais rencontrer Dino Risi et je verrai, je lui dirai que je ne parle pas petit nègre. Et quand j'arrive en Italie, monsieur Dino Risi qui me dit, c'était mon premier film. Après, il me dit, madame, permettez-moi déjà de vous féliciter pour vos performances dans le film de Colin Serrault. Je suis émue aux larmes que ce monsieur me dise cela. Je dis, un gars comme ça ne pas me demander de parler petit nègre, c'est pas possible. Et il a été charmant avec moi pendant tout le tournage. Ça s'est merveilleusement bien passé. Comme quoi, je vous disais.
Et donc, c'était quoi cette histoire de Petit Nègre?
Je n'en sais rien. C'était la tête du producteur, effectivement, qui me disait que.
Ah, c'était le producteur qui avait.
Le producteur qui m'a sorti
ça,
cela, que oui, je vais avoir alors que. Ça s'est très bien passé. Enfin, bref, très bien. Je raccourcis parce que je vais encore.
Ah, c'est pas fini?
Chose à dire. Non, pour vous dire comment il était sympa, le monsieur, comme Dinozzi. Le dernier jour de tournage, il a voulu déjeuner avec moi et son assistant. Voilà.
Très bien. Firmin Richard est dans la librairie francophone cette semaine. Merci,
bon,
Firmin.
Il y a ceux qui dorment, ceux qui grillent, ceux qui rougissent, ceux qui cuisent. Le bronzage, c'est le must de l'été. Sous l'influence de Coco Chanel, la peau blanche cachée d'aspirine a été remplacée par la volonté d'avoir une peau bronzée.
Je crois que c'est autour de la notion de narcissisme qu'on peut articuler le phénomène du bronzage.
Oui, car le culte du corps doré par le soleil est indéniablement un atout de séduction.
Pascal Horry est dans la librairie francophone pour ce livre, L'invention du bronzage, paru aux éditions Flammarion dans la collection Poche Champ. À l'approche de l'été, donc, parlons de ce bronzage qui obsède les sociétés occidentales. Et pourtant, au 19e siècle et au début du 20e, le teint mat avait une connotation négative, Pascal.
Tout à fait. Un des charmes de ma recherche, c'est que je me suis plongé pendant des mois dans la lecture des traités, des précis de soins de beauté destinés aux femmes. Parce que précisons tout de suite que l'enjeu va se passer sur le corps de la femme. Mmh. Hein, et ça, c'est important parce que, on le verra, le bronzage, c'est aussi une étape dans l'émancipation féminine au XXe siècle. Et donc, vous voyez bien qu'à cette époque-là, le soleil, c'est l'ennemi. Et j'ajouterais même les taches de rousseur. Il faut être le plus pâle possible, se protéger, voilette sur voilette, grand chapeau,
oui,
des préparations parfois très toxiques sur la peau pour être la plus pâle possible.
Avec de la poudre, avec de la crème,
oui.
Il faut essayer de se protéger du soleil pour ne pas être identifié aux personnes qui travaillent dans les champs, par exemple.
Oui, et du coup, l'art embraye le pas, la peinture, la sculpture, le théâtre, les poèmes, teint de lys, coup de cygne, etc.
Dans les années 30, en France, grâce aux congés payés, on voit le soleil d'une autre façon. Et Coco Chanel va contribuer à populariser le teint hâlé, c'est ce qu'on dit, dans les années 20, dans les années 30. On n'est pas complètement sûr, mais elle a joué un rôle, Coco Chanel, vraiment ou pas?
À peu près pas. À peu près pas. C'est-à-dire que vous avez deux thèses qui se font face. Vous avez une thèse élitiste consistant à dire c'est une grande artiste, parce que Coco Chanel, c'est à sa façon une grande artiste, qui elle, toute seule, entraîne le mouvement. Et puis vous avez la thèse, j'allais dire, de gauche, populaire, qui dit c'est les congés payés.
Oui.
C'est ni l'un ni l'autre. Les congés payés vont amplifier le phénomène, et à ce moment-là, on va voir apparaître des stratégies commerciales, on en parlera. Et dans les années 20, Coco Chanel fait partie d'un tout petit groupe, mais c'est pas elle qui est leader, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un basculement qui se situe plutôt du côté des médecins, qui change de discours, qui invente l'héliothérapie comme il venait d'inventer l'hydrothérapie, à savoir que le soleil, ça peut guérir. Ça peut, par exemple, guérir la tuberculose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais on a inventé les sanatoriums, les aériums, etc. à partir du milieu du 19e siècle, en Allemagne, d'ailleurs généralement en Europe centrale, hein, dans ces pays-là, Allemagne, Autriche, Suisse, parce qu'on croyait que le soleil était un élément de guérison.
Et ça a été essentiel. Après la guerre aussi, on a soigné les blessures de guerre.
Beaucoup,
avec le soleil,
notamment
la Première Guerre mondiale.
Et le développement du sport, évidemment.
Voilà. Alors, il y a une révolution après la Deuxième Guerre mondiale. On ne fait plus de publicité pour les produits blanchissants et les appareils de bronzage artificiels, comme ça font leur apparition. On en fait la promotion avec des formules du type « Votre teint de vacances s'en va, retenez-le ».
Oui, c'est exactement le contraire de ce qu'on disait 20 ans plus tôt. C'est intéressant de voir dans les magazines féminins, alors parlons maintenant des magazines, j'avais dépouillé l'édition française de Vogue, qui apparaît en 1920 justement, on sent bien que dans ces élites-là, vers 1925, 28, 29, il y a un frémissement, et les rédactrices sont très perplexes, parce qu'elles se disent, est-ce qu'il faut accompagner ces hurluberlus qui se grillent au soleil, ou est-ce qu'il faut leur dire, c'est dangereux?
Ouais.
Et parce qu'on est déjà conscient des dangers.
Et aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs, puisqu'on est à quelques jours, quelques semaines de l'été, il y a les médecins dermatologues qui alertent tout le monde justement sur ces machines à bronzer. On sait que c'est dangereux, mais il faut réaliser que le danger est vraiment important, même à faible dose. Donc les médecins disent aujourd'hui, ils sont paniqués, hein, certains médecins. Ils demandent vraiment l'interdiction et la fermeture des instituts dits de bronzage. Donc ça aussi, c'est une histoire qui revient à chaque fois.
Les instituts de bronzage qui sont particulièrement présents d'ailleurs dans ces pays de l'Europe du Nord ou des terres germaniques, c'est assez frappant, ou l'Italie du Nord. À partir des années 70, vous avez un renversement. Mais ce n'est pas qu'on est revenu vers la pâleur, c'est que maintenant, comme dans tous les autres domaines, ce sont des tribus. Vous avez une tribu de palichons, vous avez la tribu des bronzés, mais elles coexistent. Ouais. La nouveauté, c'est qu'on prend plus au sérieux le danger. Mais vous savez, l'essentiel, c'est ce que croient les gens. Et dans les années 30, ils n'ont pas envie d'entendre parler de cancer de la peau, donc ils ne le voient pas.
Allons voir comment le bronzage est perçu au Québec. Pascal Horry avec notre libraire, Jérémy Laniel.
Oui, ben en tant que lecteur, hein, j'aime les essais historiques qui parviennent à être à la fois aussi rigoureux que ludiques. Et l'essai d'Horry, c'est exactement ça. Hein. C'est un livre qui se laisse lire, qui parvient à certaines reprises à piquer la curiosité. J'aurais envie de dire que c'est une réussite, même si tout au long de ma lecture, je n'ai eu aucun intérêt pour le sujet.
Pourquoi vous ne bronzez pas, vous?
Ben oui, je bronze.
Ben alors?
J'ai pas envie de lire là-dessus. Je suis désolé.
En tout cas, ça vous a plu quand même.
Ben oui, non, c'est bien fait, je peux pas y enlever ça.
Bon, en Belgique, Déborah Damblon, quel est votre avis?
Ben moi, je suis pas comme Jérémy, je lis pas beaucoup d'essais. Et donc, je voulais vous remercier, Emmanuel, parce que je trouve qu'il faut un peu nous obliger. Moi, j'ai honte de dire ça devant tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, celui-ci, eh ben, moi, je l'ai trouvé passionnant. Pas que je fasse beaucoup de bronzage, mais je pensais pas que je découvrirais tellement de choses en parlant d'un sujet qui, au fond, me semble tellement superficiel.
Le bronzage, c'est la décontraction chic. Pourquoi le bronzage est-il affaire de séduction, Pascal Horry?
Parce que à partir des années 20, il est clair que dans la séduction peut intervenir ce jeu sur le hâle. Et d'ailleurs, bronze, dans les langues romanes, il y a une métaphore esthétique. Hein, parce que bronzage, au 19e siècle, on a oublié, ça consistait à donner l'apparence du bronze à une statue, de plâtre. Du côté anglais, ils sont beaucoup plus pratiques, c'est l'idée de tannage. Hein. Du côté allemand, c'est l'idée de brunir. Donc, il y a une dimension esthétique qui est assumée dans les traditions françaises, et ça a beaucoup joué dans l'exaltation, en particulier du corps bronzé des sportifs.
Ah voilà, oui.
Les premières fois, les sports bourgeois,
c'est ça, hein, le ski, golf et le tennis.
Et l'athlétisme. Alors, le tennis, prononçons le nom de Jean Patou, qui est un grand couturier, qui, comme Coco Chanel, dont il est le symétrique du côté des hommes, lance aussi des parfums. C'est lui qui va, en 1927, lancer la première huile bronzante de toute l'histoire de l'humanité.
En 27,
oui. Oui, en 1927, avec l'aide d'ailleurs des artistes art déco de l'époque. Hein. C'est très daté. Et il est évident que Patou, c'est lui qui a inventé le sportswear. Sa grande égérie, comme on disait par l'époque, c'est Suzanne Lenglen.
Ah oui.
La grande femme tenniswoman.
Il y a un cours de tennis, d'ailleurs, qui porte le nom de Suzanne Lenglen.
À juste
titre,
ouais.
À Roland-Garros. C'est aussi une affaire économique. Le bronzage, Pascal Horry, le marché des autobronzants, des huiles, donc, on l'apprend là, de 1927 pour la première, et des ambres solaires, tout ça c'est considérable.
Considérable à partir du moment où on sent bien que c'est la tendance. D'ailleurs, les instituts de beauté, Elisabeth Arden, Elena Rubinstein, mettent du temps à comprendre. Hein. Ils sont même un peu schizophrènes au départ, ils ne savent pas quoi en penser. Et les grands commerçants, on va citer un nom, c'est L'Oréal, tout simplement, parce que ambre solaire, c'est 1935, donc c'est bien vu. Là, c'est un an avant les congés payés. Et c'est un chimiste, hein, Schueller. Et c'est un homme qui a compris que ça allait être l'occasion de démocratiser les huiles, avec aussi l'odeur.
Ah oui.
N'oublions pas,
bien sûr.
Que, puisque nous sommes à la radio, et la publicité pour ambre solaire à la radio dans les années 30 va être un modèle du genre.
Ouais. Avant de parler santé et naturisme, donnons la parole à notre naturiste suisse, Laura Sanchez.
Comment ça?
C'est pas une honte d'être naturiste, hein, Laura, je vous rassure. Pascal Horry est naturiste et tout va bien.
Ah, c'est vrai.
Ah bon,
ouais,
la première nouvelle.
Ah, comme on lance des rumeurs.
Allez-y, Laura.
Alors, ben moi, l'histoire du bronzage m'intéresse personnellement assez peu. Hein. Je rejoins Jérémy là-dessus, mais votre livre m'a beaucoup plu parce qu'il traite de sujets bien plus vastes que ça. Il y a l'évolution du rapport au corps et puis l'émancipation des femmes. Autant de thèmes qui résonnent évidemment très fort avec l'actualité. Et puis, ben, j'ai aussi appris que mon petit pays montagneux avait abrité la première clinique du soleil dans les années 30, sauf erreur. De quoi changer un peu les préjugés sur la Suisse et sur ses sommets enneigés.
Bien, vous avez séduit nos libraires, Pascal Horry. Le naturisme dont il est question dans votre livre, ce sont les Allemands, vous le disiez, qui donnent la tendance. L'île du Levant en France aussi, dans le Var, au large de Toulon, sera une île entièrement naturiste et encore aujourd'hui, il faut se mettre nu pour y avoir accès. Est-il encore vraiment question de bronzage quand il est question de naturisme? N'est-ce pas autre chose?
Ah, c'est de toute façon d'emblée autre chose, c'est philosophique,
bah oui.
C'est une réponse à la société urbaine qui est déjà extrêmement critiquée dans ces années-là, mais il y a toujours derrière des médecins, il faut insister sur le fait que c'est argumenté en termes de santé. Et la beauté, la santé, il faut le rappeler, a toujours été associée, c'est pas une, on a l'impression que c'est une découverte, non, mais à tous les siècles, on vous dit, il faut être beau parce que vous serez en bonne santé et vice-versa, et on le vérifie avec ces médecins-là.
Oui, vous citez un médecin, Pierre Vacher, qui dira que le naturisme n'est pas malsain. Au contraire, il permet une éducation sexuelle de la jeunesse en leur évitant les curiosités et mystères qui développent la perversion.
Oui, mais ça, c'est un discours défensif, parce qu'évidemment, à l'époque...
Bah, c'est tout pas monde... idiot comme discours, d'ailleurs.
C'est pas idiot, mais c'est parce que tout le monde leur tombe dessus en mais disant, évidemment, on a compris, c'est une partouze générale. Donc, ils sont obligés, mais oui, mais bien sûr, suite, ils sont obligés d'en rajouter, presque dans le puritanisme. Revenons d'ailleurs 30 secondes sur la Suisse. Le Corbusier se comprend aussi par ça. L'hygiénisme de Le Corbusier, la cité radieuse, etc. L'obsession de la tuberculose, eh ben, ça s'explique comme ça.
Exactement. Vous avez fait une superbe transition. On va parler avec un auteur suisse, Thomas Sandeau, qui est en plateau avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup, Pascal Horry.
Merci à vous.
L'invention du bronzage est parue aux éditions Flammarion dans la collection Chant, un petit livre pas cher du tout, à emporter sur la plage ou ailleurs, ou en tout cas à lire au soleil. Merci Pascal, vous restez avec nous. On vous emmène au bord de la mer, justement, dans un instant avec Yann Kefelec. Et nous serons avec deux actrices militantes. Voici le tube francophone de la semaine tout de suite, avec Laurent Voulzy qui chante en français et en créole Amélie Colbert dans la librairie francophone.
Écoutez, c'est Amélie qui parle sur une vieille biguine si loin dans sa mémoire. La, la. Si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si où aimez-moi, si où aimez-moi. Si vous aimez-moi, oh Kevin, plus belle encore. Elle se souvient, même en dehors de l'école, fallait pas parler créole, pas les créoles, t'es qu'à gêner maman, c'était la loi. Mais en secret, à la fille du gouverneur, elle apprenait des phrases par cœur. Amélie rit du système, c'est sa philosophie. Amélie rit du système.
Amélie se philosophie.
Amélie se fout du système.
Amélie se fout quand elle rit.
Elle se souvient des avions la TCOR quand elle attendait son père, que t'es parti derrière l'horizon pour une raison. Pour rien, quand elle mettait de couvert, elle voyait pleurer sa mère. Amélie, quand elle dit moins là, c'est pour de bon. Amélie, tiens bien debout. Amélie,
bien bébé.
Amélie, tiens bien debout. Amélie, elle s'assoit aussi, lointaine dans sa berceuse, souveraine et rêveuse. Amélie part pour.
Aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, oh Kevin, belle encore.
Elle se souvient d'un amour cheveux clairs, fils d'un grand propriétaire, maillé béqué, yo, oh, j'envoie ça, c'est comme la loi. Les yeux fermés, elle raconte comme c'était fort. Et ce qui est plus fort encore, c'est qu'Amélie donne tout l'amour qu'elle a perdu. Amélie baille l'amour. Amélie baille. Amélie baille l'amour. Amélie a un rêve aussi. Elle dit que blanc et noir, c'est une chance, un espoir. Amélie Colbert.
Avec Fermine Richard qui danse sur le son de Laurent Voulzy.
Eh bien oui, je découvre ce morceau.
C'est vrai,
super.
Vous le découvrez.
Ben oui.
Et pourtant, il y a quelques années déjà
Mon
maintenant.
Mon Dieu, mais je ne l'ai pas souvent entendu, mais j'entends les paroles qui sont tellement réalistes. C'est une, il raconte des faits des Antilles. Quoi.
Ouais, exactement.
Il ne faut pas parler créole quand on est jeune. C'est exactement ce qu'il dit.
Amélie Colbert, c'est le titre. Sur ici, Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici, Radio-Canada Première.
France Inter.
La semaine dernière, nous parlions du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Eh bien, nous étions dans cette magnifique ville lundi aussi pour y tourner un grand reportage avec Yann Kefelec. Prix Goncourt en 85 pour les Noces Barbares. L'éternel breton vient de publier le dictionnaire amoureux de la mer aux éditions Plon. Ce reportage sera diffusé prochainement. Je vous en parle juste après un petit avant-goût. Nous avons parcouru les remparts de Saint-Malo avec lui, au bord de la mer donc, jusqu'à la statue Jacques Cartier. Cher aux Québécois, je vous emmène 6 minutes au bord de l'eau et je vous fais une annonce ensuite qui, je l'espère, vous réjouira.
Alors, nous sommes à Saint-Malo, sur les remparts de Saint-Malo, et comme souvent avec la mer, il n'y a absolument rien à voir. C'est d'ailleurs ça qu'on aime avec la mer, c'est cette monotonie absolument fantastique. Le temps est très calme, très beau, la lumière très cristalline, il y a peu de vent, quelques cris d'enfants, quelques mouettes plus silencieuses que les enfants, ce qui est rare, et en face de nous, un ferry de la Brittany Ferries, en route pour les côtes adverses ici, c'est-à-dire la Cornouaille anglaise.
Bien. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Merci beaucoup de nous accueillir ici à Saint-Malo, en bord de mer. C'est absolument magnifique, il y a un grand soleil en plus. Et vous publiez le dictionnaire amoureux de la mer qui sort cette semaine en librairie. La mer, c'est quelque chose de très important pour vous, c'est vital Yann.
La mer, c'est mon enfant. J'arrive même pas à détacher, si vous voulez, la mer de ma personne quand j'en parle. La mer, c'est la Bretagne, c'est mon enfance, c'est ma famille, c'est ma vie. Je suis moi lorsque je suis en contact avec la mer. En ce moment, par exemple, je suis pleinement moi. Il faut toujours considérer que la mer peut gagner au moment où on ne l'attend pas, ne jamais se croire supérieur à l'élément.
Quand on écrit un dictionnaire amoureux de la mer, Yann Kefelec, on pense à quoi d'abord? Quand on commence le livre, quels sont les éléments qui vous viennent en premier?
D'abord, c'est un sentiment de vertige. La mer était là, me tapant sur l'épaule et me disant « Mais qui es-tu petit pour parler de moi? Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu penses que tu vas avoir les bras assez longs pour m'embrasser ?» N'ayant pas effectivement les bras aussi longs que des méridiens, j'étais un peu dans l'incertitude. Le mieux pour aborder le livre, c'est dire sa subjectivité face à la mer, et ensuite prendre la mer dans sa main, la considérer comme un objet, et tenter d'en regarder toutes les facettes, dont certaines facettes qui ne sont pas très joyeuses à regarder. C'est vrai que la mer est en mauvais état, la mer est livrée à la pollution, et nous avons un devoir de responsabilité et d'amélioration des choses aujourd'hui face à l'océan.
Et en face de nous, alors toujours, alors que l'on poursuit sur ces remparts, on a une ville juste en face avec une grande plage aussi, la plage de Dinard.
Alors effectivement, on aperçoit la grande plage de Dinard. On aperçoit aussi Saint-Servant dans la brume et le port des Bas-Sablons qui est le port d'attente lorsque le port de Saint-Malo est à sec. Et on a cet effet absolument unique de lumière due à la marée, c'est-à-dire on a un sentiment d'irréalité, ça ne se trouve finalement que du côté de l'Armorique.
Beaucoup de passerelles, de marches en bois et du sable par terre. J'aime beaucoup ces villes où le sable comme ça se glisse dans la ville. Quand on connaît Yann Kefelec, quand on connaît le breton, on se dit qu'un breton qui fait un dictionnaire amoureux de la mer va privilégier forcément de l'Atlantique.
Il privilégie son enfance, il privilégie sa sincérité, il privilégie ce dont vraiment il est sûr de pouvoir parler. Donc en effet, j'ai privilégié l'Atlantique et j'ai largement parlé du Québec, je suis allé souvent et j'ai un vrai attachement pour le Québec, et un attachement fraternel, parce que c'est vrai qu'il y a de la Bretagne quand on se retrouve au Québec, pas simplement du côté des pierres, mais également du côté de cette fraternité. Culturellement aussi, c'est très très émouvant de voir à quel point les Québécois sont attachés non seulement aux valeurs culturelles françaises, mais également aux valeurs bretonnes, à ces valeurs de fraternité, de joie de vivre et de tolérance, qui sont la caractéristique du tempérament armoricain des gens de l'Ouest. Alors j'ai privilégié l'Atlantique, et en même temps j'ai tenu à m'intéresser à l'entité marine, voilà, de manière objective, c'est-à-dire montrer la mer et ses marins, la mer et ses écrivains, la mer et ses artistes, la mer et ses pêcheurs. C'est vrai que la mer est trop pêchée aujourd'hui et les méthodes de pêche, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Celle qui consiste à électrocuter les fonds marins pour faire remonter les carrelets, les barbus, mais c'est tout simplement, c'est pas imaginable. Hein. Les nazis n'auraient pas imaginé plus terrible. Tout cela, ça fait partie également des sujets qui sont abordés dans le dictionnaire amoureux de la mer. Et aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, cette pollution qui est gravissime, mais qui a plusieurs aspects épouvantables, particulièrement ce plastique dont on ne sait pas comment se débarrasser.
Puisqu'on parle de plastique, pardonnez-moi Yann Kefelec, il faut parler des pailles en plastique qu'il faut absolument boycotter parce qu'elles mettent des centaines d'années à se désagréger et à disparaître, et c'est un vrai souci quand on sait que les États-Unis notamment consomment énormément de pailles en plastique, et ça en rajoute évidemment.
Si on pouvait mettre sur la paille les fabricants de paille en plastique. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison d'en parler. Je peux vous dire que j'en parle largement d'ailleurs dans le dictionnaire amoureux de la mer. D'ailleurs, je crois qu'il y a toute une liste d'objets que je voudrais voir condamnés à mort qui sont énumérés dans ce livre. Et n'oublions jamais que tout ce qui tombe de la main de l'homme, tout ce qui tombe de l'homme, part à la mer. Absolument tout. La mer, qu'on le veuille ou non, est la poubelle de tous les comportements humains. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut réagir.
Et le livre de Yann Kefelec, Le dictionnaire amoureux de la mer, est sorti en librairie cette semaine chez Plon. Vous retrouverez la suite de ce reportage sur les remparts de Saint-Malo prochainement sur votre radio francophone publique, puisque je vous l'annonce donc aujourd'hui avec beaucoup de joie, la librairie francophone estivale revient l'été prochain avec plein de rencontres inédites hors studio, des clubs francophones en studio avec de grandes personnalités, des reportages, bref, on va vous faire voyager et je l'espère aussi vous faire rêver.
Elles ont ébloui les marges du Festival de Cannes.
C'était émouvant, c'était fort, c'était puissant. Je sais même pas si c'était cohérent, mais en tout cas, c'était classe, quoi.
Des sourires et de la bonne humeur pour dénoncer un fait important, la sous-représentation des personnes noires dans le cinéma. Et comme le Festival de Cannes met les femmes à l'honneur cette année, c'était une occasion rêvée pour faire entendre leur voix.
Les comédiennes Firmine Richard et Nadège Bosson-Diagne sont dans la librairie francophone pour un livre collégial, « Noir n'est pas mon métier », paru aux éditions du Seuil. Vous avez agité la croisette hein, au Festival de Cannes. Tout le monde a parlé de votre montée des marches. Militante avant la projection du film coréen « Burning », vous étiez 16 sur le tapis rouge. Comment avez-vous organisé ce « happening », comme on dit ?
Nous avons été invités.
Firmine.
Nous avons été invités oui. par Pierre Lescure à faire cette montée des marches.
C'était organisé quand même.
Nous étions assez surprises. Hein. Nous étions trois comédiennes. Il y avait Aïssa Maïga qui est à l'initiative de ce livre. Pierre Lescure nous a invités à D'accord. faire cette montée de marche.
Bon, voilà. 16 actrices donc qui témoignent dans votre livre pour contrer le racisme et les stéréotypes dans le monde du cinéma. Mmh. On choisit vraiment les actrices noires en fonction du rôle et d'une certaine caution morale, Nadège Bosson-Diagne ?
Alors, c'est-à-dire que ça fait 25 ans cette année que je fais ce métier et les rares rôles non stéréotypés que j'ai eus se comptent sur les doigts de, je sais pas, de ma main droite, par exemple. Alors vraiment, ce que je voulais déjà dire, bon, c'est à l'initiative d'Aïssa Maïga, en fait, qui nous a envoyé un texto en nous demandant si on avait envie de parler de notre réalité, parce que la réalité que nous vivons est dramatique en 2018 et nous voulons parler surtout, en fait, en ouvrant pour tout le monde, en fait. On parle pas juste des comédiens noirs, mais des comédiens aussi et des comédiennes asiatiques ou maghrébins qui malheureusement ne sont pas assez représentés à l'écran.
Firmine Richard, quand vous avez joué dans 8 femmes aux côtés de Catherine Deneuve, de Fanny Ardant, d'Isabelle Huppert, de Daniel Darieux, d'Emmanuel Béart et toutes les autres, vous étiez la seule femme noire. Oui. Avez-vous été choisie pour représenter la diversité ?
Je ne pense pas. Je pense que c'est l'audace de François Ozon qui a fait que j'étais là. Et quand je lui ai demandé pourquoi... Mmh.
Vous lui avez demandé ou pas ?
Je lui ai posé la question. Parce qu'en fait, ce film-là est tiré d'une pièce où tous les personnages étaient blancs.
Oui. Et justement, c'est pour ça. Donc.
Justement, donc il m'a dit non, c'est parce qu'il trouvait que j'étais une bonne comédienne et qu'on ne me voyait pas assez.
Mmh. Vous y avez cru ?
J'y ai cru. Et pour moi, j'ai couru et j'étais contente de me retrouver dans la cour des grands avec toutes ces grandes comédiennes du cinéma français.
En tout cas, c'est vrai qu'on vous a vu dans de nombreux films, des séries à succès aussi. Vous êtes une grande comédienne, on vous aime beaucoup, nous, dans cette émission. Et dans votre filmographie, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a très peu de premiers rôles. Une actrice originaire de la Guadeloupe a-t-elle moins de facilité à endosser des premiers rôles ?
Écoutez, moi j'ai eu une chance formidable. Je me suis retrouvée dans ce milieu, dans le monde du cinéma, sans en avoir fait la démarche vraiment. Je dis toujours que c'est le cinéma qui est venu vers moi parce que je me suis retrouvée à jouer Romuald et Juliette avec un grand rôle en face de Daniel Auteuil. Donc j'ai fait une très belle rencontre avec Colline Serrault qui connaît le monde noir parce que son père déjà, Jean-Marie Serrault, a travaillé avec beaucoup de comédiens noirs. Elle m'a choisie, mais elle était sincère.
Oui, une actrice de la Guadeloupe a-t-elle moins de facilité à endosser un premier rôle, Firmin Richard?
Mais apparemment non, c'est une question. Moi je pense que c'est une question de chance.
D'accord.
Parce que si je n'étais pas au bon endroit au bon moment, je n'aurais pas endossé ce...
Nadège Boussaud-Diagne, dans votre récit publié dans ce livre, vous racontez un épisode édifiant sur vos cheveux lors d'un tournage.
Oui. Alors, il y a souvent un problème avec les cheveux des femmes noires, parce que souvent, les gens pensent, par exemple, que Rihanna ou Beyoncé, leurs cheveux sont leurs cheveux naturels. Par exemple, là, vous voyez, j'ai des longues tresses jusque-là, ce ne sont pas mes cheveux. Oui, mais je les ai payées, mais ce ne sont pas les miens. Donc voilà, donc, mes cheveux naturels sont, comme beaucoup de femmes noires, crépus. Mmh. Et visiblement, ça posait un problème à la production, mais qui, en plus, n'arrivait pas à me le dire. Et je ne comprenais même pas en quoi c'était un problème, parce que dans la mesure où je suis noire, mes cheveux sont des cheveux de noir, en fait, hein, voilà. Tout simplement. C'est-à-dire que ma grand-mère est bretonne, mais je n'ai pas hérité de ses cheveux.
Ouais. Et dans les coulisses, on vous surnomme Bamboula?
Oui. Alors ça, c'était en fait un compliment.
Non, mais je ris parce que je préviens tout le monde, c'est que votre texte, il est très drôle, paradoxalement.
Oui,
parce que vous jouez les situations avec des dialogues.
Oui, voilà.
Et vous êtes comme ça là. Et même si c'est pathétique, c'est horrible, hein, ce que vous vivez.
Oui, bien sûr.
Mais c'est finalement très drôle dans votre récit, en tout
oui,
cas.
Oui, bah, parce qu'il faut quand même prendre du second degré. Et puis quand je restitue ça, moi, je l'ai digéré, l'information. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un compliment. Donc, d'une personne de ce tournage qui disait aux comédiens qui jouaient avec moi, vous allez bien ensemble avec la Bamboula. Et lui, il est venu me le dire, mais très simplement, comme ça. Et donc, je l'ai regardé, je dis, c'est-à-dire... Et il se rendait même pas compte, lui, déjà, qu'il était le vecteur d'une phrase raciste. Ouais, bah, et puis après, quand j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, là, on a un petit problème, parce que Bamboula, ça passe pas. C'était moi, en fait, qui était casse-pied, en fait. Ouais, je me suis retrouvée avec tout le monde qui disait, le pauvre, tu te rends compte, maintenant, il est mal dans sa peau et tout ça. Ouais, je comprends.
Bon, vous avez joué aussi dans une série, Plus belle la vie, pendant 3 ans, une série qui a un vrai succès en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Et dans cette série, qui se déroule à Marseille, vous avez joué le rôle de la commissaire du poste de police du quartier. Rôle très important, puisqu'il y a beaucoup d'intrigues policières. Bon, on va pas qualifier quelles sont les intrigues, mais il y a des intrigues. Et pour une série sur Marseille, fallait-il une actrice noire? L'avez-vous senti comme ça, vous?
Non, alors, en fait, c'est parti. Moi, je leur ai envoyé un petit mot, en fait, parce que je trouvais que les rôles de noirs qu'il y avait étaient souvent caricaturaux. Donc, je leur ai dit, vous savez qu'en fait, il y a des noirs normaux. Hein. Je suis pas obligé d'être sans papier ou bon, j'ai rien contre la poste, mais on peut pas obligé de travailler à la poste, etc. Et en fait, mon tacle, finalement, ils cherchaient la commissaire et ils ont dit, bah, est-ce que ça te dit? Et je dis, bah ouais, parce que c'est la chef de la police, c'est qui a fait plus d'études. Et tout.
Ah, c'est comme ça que c'est venu.
Ouais. Bah, et en fait, c'est venu comme ça, en fait. Et du coup, j'étais très contente parce que c'est vrai qu'elle avait le pouvoir et voilà.
En tout cas, vous représentez un poids économique, ça vous le savez. Nadège, vous le dites d'ailleurs.
Hein. Oui.
Vous avez un public.
Ben oui.
Donc ça veut dire que le public a une grille de lecture. Oui. Ça veut dire que le public veut de la diversité dans les films, un reflet de sa société.
C'est
donc on vous choisit en tant que noir, on va choisir un gay parce qu'il est gay.
Non, pas du tout. Non, mais vous-même vous le dites. Effectivement, nous représentons un public. Moi, je sais pas, mais le film de Lucien Jean-Baptiste où il n'y avait que des noirs.
Oui.
Il y avait très
première
peu de
étoile,
la première étoile a fait plus d'un million d'entrées. Il n'y avait pas que des blancs, que des noirs dans la salle. Il y avait des blancs et des noirs qui ont fait ce million-là. Alors, tout est dit là.
C'est une histoire
vous
de
racontez
proposition.
Vous racontez une histoire aux gens, ça les intéresse et ils viennent au cinéma.
En tout cas, il y a un véritable scandale. C'est le scandale qui concerne les salaires. Et Firmin Richard, vous en parlez dans votre texte parce que vous vous rendez compte très souvent que vous avez été moins bien payé que les actrices blanches.
De tous les films que j'ai fait jusqu'ici, je sais, pour aller là où il fallait pour savoir, je sais que j'ai été la moins payée de tous les films que j'ai fait. Mais ce qui était plus criant, je veux bien qu'il y ait une différence, ok.
Pourquoi
mais
vous voulez bien qu'il y ait une différence?
Pourquoi pas?
Je veux bien qu'on me dise,
j'accepte même volontiers qu'il y ait
une différence de salaire.
Pourquoi pas?
Parce que vous êtes noir.
Non, pas ça. Pas du tout. selon
la notoriété
des gens avec qui je travaille, qu'il y ait une différence, pourquoi pas, je peux l'accepter. Mais qu'il y ait un gouffre entre, pour le même nombre de jours, quatre comédiennes qui ont un rôle important, être payé quatre fois et demi moins que deux des comédiennes, je dis non. Et c'est ce que j'ai vécu.
Et vous citez d'ailleurs Viola Davis aux États-Unis, oscarisée, hein, une grande actrice qui dit « payez-moi pour ce que je vaux ». C'est son grand combat. Nadège, vous racontez plein d'anecdotes, notamment vos origines avec votre père sénégalais, votre mère ivoirienne bretonne, et vous qui êtes née à Paris. Mais ça n'empêche pas certains de vous demander un jour si vous êtes du même village qu'un collègue noir.
C'est ça, c'est parce que tous les noirs viennent du même village, vous ne le saviez pas, Emmanuel. Mais c'était incroyable parce que surtout que c'est une personne qui est quand même personne qui a une éducation, qui était une personne d'une production, donc qui est quand
grand
même
producteur français,
un grand producteur français qui bonjour
qui
est... non alors en fait voilà, moi vraiment ce qu'on n'a pas voulu, c'était balancer des noms parce qu'on parle d'un système, en fait, on parle pas d'une personne.
Qu'est-ce qu'il vous dit alors?
C'est qu'il m'a demandé si cette personne venait du même village que moi. Alors moi j'ai pas compris, mais d'abord il m'avait dit que j'étais dans le groupe des noirs avant.
On vous dit aussi heureusement que vous avez les traits fins, je veux dire pas négroïdes, enfin vous faites pas trop noir, ça va.
Ça, on me l'a dit souvent.
Ou alors, vous êtes vraiment intelligente, vous auriez mérité d'être blanche. Et puis, avec des fesses comme ça, vous devez être chaude au lit.
Alors, en fait, c'est-à-dire que nous
on
avons...
On a l'impression que vous inventez tellement, c'est
incroyable.
Oui,
je sais que c'est terrible. Et ce qui est terrible aussi, c'est que moi, j'ai gardé ça longtemps pour moi. Par exemple, Aïssa et Firmine sont des amies depuis très très longtemps. Et elles ont découvert ça dans le livre. C'est terrible parce que finalement, c'est de la violence, mais on le garde pour nous, en fait. Ouais. C'est ça qui est terrible.
Comme dans des scènes où, quand vous cuisinez, on vous demande de faire un plat créole.
Bien sûr.
Un colombo de poulet, par exemple.
Si faire que ça. Mais oui,
Firmine Richard aussi.
Nous savons faire que ça. Nous avons cuisiné que des plats entiers, quoi. Alors, ça fait 50 ans que je vis dans ce pays, mais je ne sais faire que des plats entiers.
Ouais, c'est ça.
Mais oui.
Je fais beaucoup mieux les crêpes.
Oui, en tant qu'à moitié bretonne.
Mais oui.
Non, mais c'est génial.
Mais oui.
C'est génial. Mais c'est vrai que les gens, en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu que le livre a un succès, c'est parce que les gens s'identifient, parce que nous racontons avec notre cœur, et on peut pas imaginer ce qu'on a vécu, et voilà.
Bien sûr.
Vous le racontez très bien, en tout cas, avec beaucoup d'humour, c'est absolument terrible. Voilà, il faut lire ce livre, il faut dénoncer aussi toutes ces personnes-là. Oui. Vous n'avez pas cité de nom, c'est très classe, mais il mériterait qu'on les cite quand même.
Oh, ils doivent transpirer.
Ils savent bien.
On pense à eux très fort. Ouais. Merci beaucoup. Vous me donnez les noms qu'on les invite pas quand même.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Nadège Bosson-Diagne, Firmine Richard, deux grandes comédiennes. Noir n'est pas mon métier, paru aux éditions du Seuil. Dans un instant, la chronique des libraires tous ensemble pour leur coup de gueule et leur coup de cœur et le nouveau roman de l'auteur suisse Thomas Sando, qui est très sage depuis tout à l'heure. Ça va, Thomas?
Tout va bien, merci.
Bon, très bien. Vous êtes régalé, hein, côté de Firmine Richard. Voilà. Avant cela, voici le nouveau titre de la chanteuse Juliette Armanet dans la librairie francophone.
Je t'écris, c'est moi. Il est tôt encore, j'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais, je dors, je dors. J'hallucine. Ton adresse est sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. J'ai choisi cette image, je la trouve jolie. Ça, j'avais dit, sans rougir, je n'ai rien à te dire, je veux juste t'écrire, t'écrire. Je dessinais ton nom et ton adresse, et sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale. Petite carte postale qui fait du mal. J'aimerais te parler du sable adorable, du vent qui dort sur les coquillages d'or.
je t'adore, je t'écris ce mot. Oh, ça dure encore, je t'aime si fort. Le papier sous mes doigts, encore et encore, je sais, je t'aime, je t'aime, je sais, je t'aime, je t'aime, je sais, je t'aime, je t'aime.
Juliette Armanet, la carte postale dans la librairie francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Laura Sanchez en Suisse, un coup de gueule qui concerne notre ami Zep. Je ne peux pas cautionner ça normalement, Laura, plus gentille et fidèle que lui.
Non mais pourtant Emmanuel, moi je pousse un coup de gueule aujourd'hui rien que pour vous faire plaisir.
Ouais.
Hein, parce que c'est notre devoir de défendre la francophonie, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, mais complètement.
Eh bien, du coup, voilà, aujourd'hui, j'interpelle Zep, justement, auteur de BD à grand succès auprès des adultes et des enfants, qui s'entêtent avec des titres en anglais.
Ah, oui.
Happy Sex, Happy Rock, Happy
c'est
Parents,
vrai.
What a Wonderful World, oui. Et maintenant, The End.
Je lui ai fait la remarque, hein, je crois, un jour, je lui avais dit qu'il fallait arrêter ces titres-là, mais bon.
Mais bon, ceci étant dit, c'est quand même une BD absolument magnifique qui vient de paraître chez Rue de Sèvres.
Bon, on le salue Zep et effectivement ses titres en anglais, il nous écoute, je le sais. Zep,
on le salue.
Attention Philippe, on est là. Merci beaucoup, merci Laura. On va passer en Belgique avec Déborah Damblon et un coup de cœur à Bruxelles.
Oui, un coup de cœur à Bruxelles, Bruxelles, hein, que vous connaissez si bien, que vous aimez,
oui,
hein, Emmanuel.
Ben, j'adore.
Oui, oui, oui. Eh ben pourtant, vous savez quoi? Je suis prête à parier que dans les 200 lieux incontournables que regroupe cet ouvrage, il y en a très très peu que vous connaissez. Bon, c'est pas question de boire et de manger partout. On parle aussi d'architecture, d'espace vert, de peinture, de culture. Mmh. Il y a même du folklore. Enfin, il y a des tas de trucs. Comme
parce que moi, je ne fais que boire et manger, donc c'est ça que vous êtes en train de sous-entendre.
Non.
Mais je rêve.
On parle de tout ce qui... Emmanuel, j'essaye de vous dire que je vais vous emmener découvrir des tas de choses.
Très bien, merci Déborah, c'est terminé votre chronique. C'est
mais
bon, vous avez fini ou pas?
Je vais boire une bière sans vous.
Bruxelles, 200 lieux incontournables aux éditions Racine. Je ne sais même pas si elle a terminé. Vous avez terminé ou pas?
J'avais presque terminé, mais on peut finir comme
ça. Bon, on va finir comme ça. Merci Déborah, Jérémy Laniel. Un coup de gueule dans le rayon poésie. Alors là, vous m'étonnez Jérémy, parce que vous portez la poésie dans cette émission dès que vous le pouvez, et là, un coup de gueule.
Absolument, c'est le livre « Trajet, trajectoire et traversée » d'Herminé-Gilles Chiasson, publié à La Grenouillère. D'abord, tenez-vous-le pour dire, Herminé-Gilles Chiasson est un grand, grand écrivain. J'avais hâte de le lire et c'est après 4, 5, 6 poèmes que je me rends compte que ce que j'ai dans les mains est un fourre-tout de poèmes déjà publiés dans des recueils existants. Donc, on nous a créé un genre d'anthologie sans jamais nous l'annoncer, sans jamais contextualiser aucun des poèmes qu'on est en train de lire. Ça part dans tous les sens parce que l'œuvre d'Herminé-Gilles Chiasson est riche et va dans tous les sens, mais qu'un éditeur, pour avoir le nom d'Herminé-Gilles Chiasson dans son catalogue, décide de faire ce genre d'amalgame-là, je trouve ça désolant. Donc, lisez Herminé-Gilles Chiasson et évitez ce livre.
Bon. Herminé-Gilles, c'est son prénom, hein, Chiasson.
Absolument.
C'est ça? Voilà.
Oui.
Merci Jérémy. Anne-Rosine Vosa pour la France, un coup de cœur dans votre librairie en Martinique.
Oui, un gros coup de cœur pour Giboulet de soleil de Lenka Anakova-Sivadé, qui a reçu le prix Renaudot des lycéens en 2016. Et pour moi, c'est un bijou de littérature au niveau de la langue déjà et aussi par l'histoire, parce que c'est une histoire de mère, de grand-mère, de fille, de petite fille condamnée à être sans père de génération en génération. Et c'est un roman qui est vraiment sur l'identité, les racines et la transmission.
Bien.
Il m'a beaucoup touchée, il est magnifique.
Giboulet de soleil aux éditions Folio. Merci beaucoup Anne. Et bonjour Thomas Sandeau.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes un auteur suisse que l'on connaît bien dans cette émission. Vous revenez avec un roman enlevé, drôle et intelligent, La balade des perdus, est paru chez Grasset. Cinq personnages loufoques se perdent entre la campagne et les montagnes suisses. Ils sont dans un minibus venant d'une institution pour handicapés. Sur leur parcours, ils ne sont pas les bienvenus. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué tout au long de l'histoire, Thomas. On ne veut pas d'eux.
Nulle part, en fait. Mais il faut dire qu'ils ont des comportements un petit peu particuliers aussi. Ils savent pas vraiment se faire aimer, simplement parce qu'ils ne savent pas comment on fait pour être aimé pour la plupart. Donc effectivement, l'histoire débute dans un minibus, il y a 4 handicapés, 4 adolescents et leur éducatrice bougonne. Et ils doivent revenir le plus vite possible à l'institution où ils vivent la semaine parce que l'un d'eux, qui est le narrateur, a sans le vouloir commis une grosse bêtise.
Ouais. Vous auriez pu, c'est vrai, écrire un livre triste et désenchanté, mais pas du tout. En tout cas, c'est un roman sur la solidarité, parce que les cinq personnages ont des défaillances et une grande liberté. C'est par leur esprit inventif et leur affranchissement des règles établies qu'ils arrivent à être heureux.
Oui, en tout cas, il y avait cette envie de raconter aussi une belle histoire d'amitié quelque part. Au départ, c'est vrai, ces quatre personnages n'ont pas grand-chose en commun, à part le fait de vivre la semaine ensemble, mais ils ont des handicaps différents. Mais la situation va faire qu'ils vont être obligés de quelque part coopérer et s'entraider.
Ouais, et puis il y a des duos aussi, des duos un peu burlesques, comme Goon et Biérot qui forment un duo improbable. L'un est très grand, très fort, le casque vissé sur ses oreilles à écouter le violon d'André Rieu. Et l'autre est facétieux, un peu obsédé par le sexe. Ils font plein de bêtises tous les deux.
Sans le vouloir. Ouais. Ils veulent pas faire des bêtises pour en faire. C'est simplement les circonstances qui les entraînent à faire. Effectivement, le personnage qui s'appelle Biérot, ben, dès qu'il est à l'âge où il s'intéresse beaucoup aux femmes, au sexe, et puis, évidemment, il a pas tout à fait les codes, ni les habitudes retenues. Enfin, il sait pas très bien comment on fait pour aborder une femme.
Et il y a Luc aussi, le narrateur, qui lui est en fauteuil roulant. Sa mère, âgée de 20 ans, a accouché de lui lors d'un terrible accident de voiture. Le père est parti à la naissance. Et puis à l'âge de 7 ans, il a été placé dans une institution parce que sa mère l'a abandonné pour refaire sa vie. Et en quelques mots, Thomas Sandeau, vous avez défini les raisons de l'abandon maternel.
En l'occurrence, effectivement, la question... Alors là, on revient de nouveau sur le problème du handicap qui n'est pas au cœur du roman, mais ça explique pourquoi ce personnage, au bout d'un moment, va s'intéresser au forum de psychologie en ligne et puis va commencer à participer. Parce qu'effectivement, il se sent seul, il se sent un peu abandonné. Eh bien, c'est un peu pour tromper la solitude ou pour pouvoir discuter avec d'autres êtres humains.
Ouais. Il va sur des forums de discussion, on en parle juste après les libraires. Thomas Sandeau, les quatre ont lu votre roman. On commence par la France, le Canada ou la Suisse?
Ah, c'est moi à choisir, oui. La Suisse.
La Suisse. Allons-y, Laura Sanchez.
Il n'y a que les Suisses qui choisissent la Suisse d'abord, vous avez remarqué?
Oui, non, je n'avais pas noté ça, mais bon.
Alors, je vous le dis. Bonjour Thomas Sandeau. Drôle d'aventure que celle-ci, mais en fait, pas si drôle. Moi, j'ai trouvé ce roman plutôt tragicomique. Par exemple, j'étais très tendue pendant toute la lecture avec cet adolescent épileptique à qui on ne donne pas son médicament, j'avoue. Donc, ces personnages sont très attachants, ça fonctionne très bien, à tel point que j'ai trouvé l'intrigue autour du forum sur Internet presque superflue.
Bien. Le Canada ou la France?
France.
La France, la Martinique.
Anne-Rosine Vosa, oui.
À Fort-de-France.
Oui, alors si j'ai trouvé l'enchaînement des mésaventures un peu ennuyant et un peu exagéré, j'ai cependant beaucoup aimé le style de Thomas Sandeau pour son humour sarcastique très présent du début à la fin du texte. Et aussi parce qu'à aucun moment du texte, on est pris de pitié pour l'un ou l'autre des personnages. On oublie même qu'ils sont handicapés. Et donc je pense que ce roman... bien que drôle de prime abord, est surtout un livre sur les notions de normes et de différences. Il nous pousse à nous interroger sur ces notions-là et je trouve ça très bien.
Oui, exactement. Je suis d'accord avec vous, Anne-Rosine Vosa. Le Canada, avec Jérémy Laniel.
J'avais tellement aimé Les temps ébréchés de Sandeau que je me suis plongé avec délectation dans ce roman.
Ça commence mal.
Mais je ne sais pas si c'est le jeu des attentes qui m'a joué des tours, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver l'écrivain qui m'avait fasciné avec ce roman. J'ai trouvé le style beaucoup moins ample. J'ai trouvé qu'il laissait un peu de côté sa voix d'écrivain qui m'avait tant plu.
Bien. On va vous consoler, Thomas Sandeau. On va parler de Luc, à qui on offre un ordinateur. Il va découvrir Internet et à la place des sites érotiques qu'on lui conseille, il va plutôt aller voir du côté des forums de discussion. On va écouter un extrait de votre livre, Thomas Sandeau. C'est la comédienne Nadège Bosson-Diagne à qui nous avons confié cette tâche. Vous êtes prête, Nadège?
Oui.
Bon, on va vous laisser lire cet extrait sur la musique d'André Rieu, qu'adore votre personnage Goon. Si vous aimez André Rieu, profitez-en, ce ne sera pas tous les jours.
Je suis tombée sur des témoignages de personnes tristes, seules et parfois aigries. De là, j'ai glissé vers d'autres forums de discussion. Et ce que j'y ai lu m'a rendu furieux. Moi qui suis si dépendant,
je ne comprenais pas ces gens qui larmoyaient devant leur ordinateur. Ils pouvaient sortir en ville, pousser la porte du premier bar venu, n'y rester que le temps d'un café si l'angoisse les saisissait. Au lieu de cela, ils se regardaient dans le brillant de leur écran en pathétique narcisse 2.0, les pensées pixelisées. J'étais soudain témoin d'une compétition insensée. C'était à celle ou celui dont la souffrance aurait le plus d'écho.
Merci Nadège. Belle lecture Thomas Sandeau. C'est vrai que ce passage est assez représentatif. Alors la musique d'André Rieu gâche un petit peu votre texte, mais... mais disons les choses quand même. Mais c'est la BO du roman parce que vous avez choisi ce... Vous aimez André Rieu peut-être, pardonnez-moi.
J'en ai beaucoup écouté pour écrire le livre.
Bon,
ah, je me documente toujours. J'ai même regardé les vidéos et tout.
Parce que le personnage adore André Rieu. Mais c'est vrai que c'est très touchant et c'est exactement ça. C'est que lui, il est enfermé dans sa condition et quand il voit les autres se répandre sur Internet, ça le rend fou.
Alors au départ, effectivement, c'est ça qui va créer son désir. En fait, ses premières contributions sur ce fameux forum sont pour se moquer. Et au début, il écrit absolument n'importe quoi. Il prend genre un verset biblique et il l'inverse avec des mots. Il met deux, trois petites choses pour que ça fasse un peu plus exotique. Et malheureusement, il a du répondant. Et finalement, il se rend compte qu'il a un pouvoir sur les gens, anonymes évidemment.
Pour les consoler quelque part.
Pour les consoler. Ouais. Et il tombe un petit peu, il se laisse un peu avoir et il se donne plus de pouvoir qu'il n'en a, notamment en se donnant ce nom de Dr. Goodluck qui est trompeur.
Bon, le mot de la fin, c'est pour un libraire, honneur à la Belgique aujourd'hui, avec Déborah Damblon qui va vous dire ce qu'elle pense de votre livre. Déborah.
Eh bien, ce que j'ai pensé d'abord quand j'ai commencé, c'est que, oh là là, les perdus sur les routes, c'est pas très nouveau comme concept. Mais tout de suite, je trouve que vous arrivez à tordre le cou, à ce déjà vu, et puis vous en faites quelque chose d'original. Parce que c'est vrai que mettre en scène des jeunes handicapés, bah, c'est plutôt rare. Et carrément leur donner la parole en plus, chapeau. Je trouve que ça mérite d'être salué, ça mérite d'être encouragé. Alors parfois, bon, si je veux chicaner, j'ai trouvé que certaines tournures étaient un peu artificielles dans la bouche d'un ado, mais j'ai quand même très très envie de le rencontrer en vrai, votre Luc.
Bon, voilà, vous partagez un petit peu nos libraires, mais dans l'ensemble, ils sont positifs. C'est bon signe. Et à vous qui nous écoutez à travers le monde, de vous faire une opinion. Merci beaucoup Thomas Sandeau. La balade des perdus est parue aux éditions Grasset. À bientôt Thomas.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone. Voici les artistes français Midsizer et Oclou avec un extrait de Météo. Midsizer et Oclou Météo, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Pascal Horry, Nadège Bosson-Diagne, Firmin Richard. À très bientôt Thomas Sandeau. Bonne chance pour vos livres respectifs. À la réalisation Henri-Marc Mutel avec Ronan Mahé, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, Éric-Emmanuel Schmitt et l'auteur Inou, Naomi Fontaine. antennes, avec des surprises, bien sûr. Passez une bonne semaine, un bon week-end. À bientôt, salut.